Alors, avant de commencer, on m'a prié de faire une motion d'ordre. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, de bien occuper les centres des travées. Comme ça, si par extraordinaire quelqu'un serait en retard, il pourra se placer sans trop de difficultés. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue pour ce culte. Une bienvenue qui s'adresse aussi bien à toutes les personnes qui viennent ici régulièrement, qui sont de passage, qui sont nouveaux, qui sont peut-être de retour. Donc bienvenue à chacun. Bienvenue en particulier à ceux pour qui je l'avais déjà dit, mais je le répète, pour ceux pour qui c'est un effort, un véritable effort de venir, parce que peut-être c'est pas facile. On a des difficultés, on a des obstacles. Et puis chaque dimanche matin, on se demande si ça va être possible de venir au culte. Alors si vous êtes là, eh bien, soyez particulièrement accueillis et je suis persuadé que vous allez en retirer quelque chose. Nous sommes bientôt ou au début de la dernière ligne droite qui va nous conduire jusqu'à Noël. On pense déjà à l'année prochaine, alors que l'année présente n'est pas encore terminée. Donc c'est bientôt le tourbillon. Et ce matin, on va vous offrir une petite heure, 1 heure et demie de répit. Et donc j'espère que vous pourrez en profiter. Alors, comme introduction, je vais vous raconter trois petites histoires, ou plutôt trois situations, et voir comment est-ce qu'on peut réagir à ces situations. La première, ça concerne l'école. Moi, quand j'ai fait l'école primaire, au milieu des années 70, à l'époque, il y avait un classement des élèves. On avait un classement qui était fondé sur, je suppose, sur les notes. Et puis, c'était un peu comme dans les championnats de football. Il y avait les premiers, après il y avait une ligne. C'était ceux qui avaient droit au prix à la fin de l'année. Et puis, il y avait une ligne en bas, c'était ceux qui étaient menacés de doubler. Et on avait régulièrement la mise à jour de ce classement. Moi, je vous rassure, j'ai jamais été premier. Par contre, j'ai toujours eu un prix. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne me suis jamais demandé comment réagissaient ceux qui voyaient leur nom sur la liste, mais plutôt en bas du classement. Ce n'était pas forcément très agréable. Et je ne me suis même jamais posé la question, comment est-ce qu'on pourrait réagir si on avait tout simplement inversé la liste? Si on avait inversé la liste, je pense que certains auraient crié au scandale, auraient invoqué certainement une injustice. On aurait certains parents qui auraient certainement introduit des procédures judiciaires. Mais finalement, on se serait dit, mais pourquoi celui qui est en bas de la liste, par quel mérite est-ce qu'il peut de nouveau se retrouver premier? Il ne le mérite pas. Il n'a pas assez travaillé, il n'a pas été assez assidu. Deuxième exemple, deuxième situation, j'ai pris dans le domaine du sport. J'ai fait un peu de recherche et j'ai retrouvé le classement du slalom géant dames des Jeux Olympiques de 2018 qui ont eu lieu à Pyeongchang, en Corée. Donc, arrivée première, il y avait une athlète américaine, Michaela Schifrin. En deuxième, une athlète norvégienne dont je tairai le nom parce que ça va précipiter l'arrivée de la pluie. Et médaille de bronze, c'était une Italienne. Dans un mouchoir de poche, quelques centièmes de seconde. Et j'ai pris les trois dernières. Parce que si on avait inversé le classement, la médaille d'or aurait été attribuée à une jeune fille du Monténégro. 38 secondes de retard au classement. Le Monténégro, c'est à la même latitude que Naples. Ce n'est pas un pays alpin par essence. Médaille d'argent dans ce classement virtuel, une athlète turque. La Turquie, c'est frontalier avec l'Irak. C'est plus Laurence d'Arabie que les paysages alpins. Et médaille de bronze, une athlète de Hong Kong. Bon, à Hong Kong, il y a souvent de la neige dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, ils font des pistes artificielles. Pas certain que ça suffise à avoir un entraînement de haut niveau. C'est clair que si on avait eu un classement comme celui que je viens d'évoquer, là aussi on aurait crié au scandale. On aurait dit, mais c'est injuste. Ces athlètes qui ont travaillé, qui ont consacré, qui consacrent tout leur temps, toute leur vie, qui font des sacrifices pour être au top niveau, de se retrouver comme ça déclassés. On aurait eu certainement des réactions du monde économique, parce que, ma foi, les Jeux Olympiques, ça passe à la télé, il y a de la publicité, on regarde cette publicité, et je pense que le téléspectateur américain qui était peut-être d'accord de se lever à 2h du matin pour voir la descente ou le slalom, il le fait s'il sait que quelqu'un de son pays a peut-être une chance de gagner, s'il sait que c'est le Monténégro, la Turquie ou Hong Kong qui vont remporter la médaille, je ne suis pas sûr qu'il se lève. Donc on regarde moins de publicité, les annonceurs sont floués, ça fait une crise. Et puis finalement, on aurait dit, mais quelque part, les trois derniers, est-ce qu'ils méritent vraiment d'obtenir une médaille ? Dernier exemple, la politique. Alors on vient de finir, heureusement, les élections au Conseil national et au Conseil des États. Il y a encore quelques cantons qui votent aujourd'hui. Mais dimanche passé, on a élu au deuxième tour nos représentants au Conseil des États. La première, c'est Mme Lisa Madzone, 45 900 voix. Et si on inverse la liste, on aurait élu un certain Paul Aymon, dit le prophète. Bon, je me suis dit, à la limite, un prophète à Berne, pourquoi pas ? J'ai pris le temps de regarder son programme. Ça m'a pris entre 25 et 30 secondes. Son programme, c'est « Avec les primes d'assurance maladie, on sera bientôt tous aux poursuites ». Franchement, comme prophète, j'ai vu mieux. Mais là aussi, si on avait inversé le classement, on aurait crié au coup d'État. On aurait dit, mais où est le respect de la volonté populaire ? C'est le règne de l'arbitraire. Et puis finalement, est-ce que le dernier mérite vraiment d'être élu ? Donc vous voyez bien que ces trois situations qui sont à la fois réelles et fictives, réelles parce que c'est des vrais exemples, fictives parce qu'on n'a jamais inversé les classements, et les réactions que j'ai esquissées sont certainement des réactions dans lesquelles on aurait pu se retrouver, nous. Et dans la suite du culte, dans la prédication de tout à l'heure, on va recevoir des outils pour avoir un coup d'œil différent, une autre perspective sur des situations où le mérite de chacun semble ne pas avoir été respecté. Et c'est un peu le défi de ce culte aujourd'hui. Je vais prier pour cette célébration. Merci Seigneur, parce que nous pouvons nous réunir pour ce moment de culte, ce moment de culte qui nous fait du bien. Nous prions pour que nous puissions nous approprier le message, ce qui est contenu dans le message. Et je prie particulièrement pour Philippe Anchaud, qui en a la charge, pour que tu le conduises, que tu le protèges, lui, mais aussi sa famille, qui le soutient dans son ministère. Amen. Et c'est maintenant la louange qui prend les commandes.
Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Philippe. Avant de commencer, j'ai envie de dire quelques mots, surtout aux enfants qui sont ici. S'il y a encore des enfants dans la salle, ils peuvent venir s'avancer sur les bancs. Et Je voulais vous expliquer, les enfants, quelque chose. Quand j'avais votre âge, j'étais à peu près, j'étais plus ou moins sur ces bancs, sur les chaises qui étaient derrière. Et je chantais aussi avec les adultes des chants, deux chants qu'on va prendre ce matin avec vous. Et le premier, il est très important. Et puis, André l'a très bien l'a un peu apporté déjà ce matin. C'est qu'il y a les enfants et l'enfant. Coucou. Salut. Il y a deux types de personnes qui viennent le dimanche matin. Il y a, on va dire qu'il y a une personne qui est arrivée ce matin et qui est très très triste. Elle a passé une mauvaise semaine. Il pleuvait, il faisait froid. Et puis en plus, elle est tombée malade. Et elle a eu quelques épreuves cette semaine. Il y a une autre personne qui est venue ce matin. Et cette personne, elle était très très joyeuse. Au travail, ça s'est super bien passé. Les enfants, ça va super bien. Sa famille, c'est trop bien. Et puis, les deux personnes, ce matin, elles sont venues au culte. Et ces deux personnes, elles attendent qu'on chante quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on va chanter pour ces deux personnes? Est-ce qu'on va chanter est-ce qu'on va remercier Dieu ou est-ce qu'on va plutôt lui demander à l'aide? Et dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre des psaumes. Est-ce que vous connaissez ce livre, les enfants? Les psaumes, c'est un peu comme si on disait c'est le livre de la louange. Les psaumes, ça veut dire un chant accompagné d'instruments. Il y en a 150 en tout, et ils ont tous ou presque été écrits par la même personne qui est le roi David. Et ces chants, ils louent Dieu dans les moments, dans tous les moments de sa vie, dans les moments de joie, les moments de victoire, mais aussi les moments d'humiliation, les moments de tristesse. Et ce qui est important de se rappeler ce matin, c'est que ces deux personnes qui sont venues ce matin, la personne triste et la personne contente, elles sont venues pour la même raison, et se rappeler qu'on a un Dieu qui est infiniment grand, infiniment bon pour nous, et qu'au-delà de toutes nos joies, toutes nos épreuves, toutes nos victoires, on veut se rappeler et on veut chanter de tout notre cœur, béni soit ton nom, qu'on soit heureux ou qu'on soit triste. Alors ce que je vous invite à faire ce matin, vous pouvez vous lever, et de tout votre cœur, pensez à votre semaine, pensez à vos joies, à vos victoires, aussi à vos tristesses, à vos déceptions. Et au-delà de tout ça, regardez à Dieu et chantez « Béni soit ton nom ».
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom. Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi t'es-tu. Oh, béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi t'es-tu. Oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Le deuxième chant proclame « Il me délivre de la folie de mes projets ». Ce chant, les enfants le chantent surtout pour se rappeler qu'il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Écouter Dieu, ça passe surtout par la prière et par prendre le temps de lire sa parole plutôt que de suivre toutes nos propres envies tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que Dieu, il a des projets incroyables pour tout le monde.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le tour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas. En justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Les enfants vont pouvoir aller dans leur groupe avec leur moniteur. Donc j'invite les moniteurs à venir chercher les enfants puis les accompagner dans leur groupe. Et avant qu'ils descendent, j'aimerais juste prier pour eux, prier pour leur moniteur, si vous êtes d'accord. Seigneur, je te remercie pour les enfants, je te remercie pour le futur de cette église. Merci pour qui ils sont, merci pour leurs moniteurs qui ont pris le temps pendant cette semaine et qui prennent le temps ce matin de leur enseigner la parole, leur enseigner ta parole, Seigneur. Que tu puisses les garder, poser ta main dans les groupes des potes du dimanche et ouais, vraiment pouvoir les édifier, Seigneur, et les amener à toi. Amen. On va chanter un dernier chant. Je vous invite à rester debout.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie.
Je vous invite à vous rasseoir.
Bonjour à chacun, chacune. « Nous allons lire et méditer ce matin un beau texte de l'évangile de Matthieu. Un texte renversant en matière de classement. Nous allons essayer, je vous le propose, de nous laisser cueillir comme tout à nouveau par la grâce incomparable et étonnante de notre Dieu. Alors, dans un premier temps, je vous invite à suivre la lecture de Matthieu 19 et nous lirons les versets 16 à 30.
Alors, un homme s'approcha de lui et lui dit : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels ? Demanda l'homme. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes. » Mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. »
Au travers de l'exemple du jeune homme riche, Jésus a donc rappelé la difficulté pour qui est riche d'être sauvé. En vérité, je vous le dis, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et comme nous le sommes aujourd'hui devant un tel texte, les disciples, à leur tour, font part de leur étonnement. « Mais alors, Seigneur, qui peut être sauvé ?» Et Jésus répond, « À Dieu, tout est possible. » Comme pour rappeler que de toute façon, devant nos étiquettes et nos classements, Dieu fait grâce à qui il veut. « À Dieu, tout est possible. » Répond donc Jésus. Mais cette réponse-là ne suffit pas à l'apôtre Pierre. Pierre qui, dans notre texte, réfléchit et s'inquiète. Et nous ? Et nous, Seigneur ? Nous avons tout quitté pour te suivre. Tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous ? Quelle récompense pour ceux qui ont fait
ce que le jeune homme riche avait refusé de faire. Autrement dit, quelle récompense pour celles et ceux qui ont tout quitté. Et Jésus répond alors par une merveilleuse promesse, versets 28 et 29. Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. C'est vrai que venir à Jésus, que lui laisser la seigneurie sur nos vies, peut induire parfois quelques pertes. Mais Jésus affirme que Dieu ne sera pas en reste. Avec lui, nous retrouvons des amis, nous retrouvons une famille et d'autres richesses impossibles à perdre, la vie éternelle. Et en plus de cette promesse, il y a là une mise en garde étonnante. Une mise en garde qui va être répétée deux fois par Jésus. Verset 30. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Et, chapitre 20, verset 16, voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Une répétition, deux versets étonnants, il faut bien l'avouer, des mots qui nous interpellent, qui nous questionnent, premier, dernier. Premier ou dernier en fonction de quoi? Premier ou dernier par rapport à quoi? Des mots répétés par deux fois donc, et qui viennent entourer une parabole, celle des vignerons appelés aux différentes heures de la journée, que nous allons lire maintenant. Chapitre 20, les versets 1 à 16.
Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit: vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit: pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur: fais revenir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage. Mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort, une pièce d'argent. » N'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers.
Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Quelques versets plus haut, Pierre s'était interrogé sur la récompense. C'est pas interdit, hein ? Il espérait recevoir, avec ses copains disciples, des dividendes importants sur son investissement. Un retour sur consécration, une sorte de prime d'ancienneté, de prime de risque pour service rendu et sacrifice en chaîne. D'ailleurs, parmi les disciples, je vous fais remarquer qu'il n'était pas le seul à penser à la question des récompenses. Chapitre 20, toujours, versets 20 à 23, « Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-t-il ? Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » La question des récompenses. Pierre, lui, raisonne comme le patron pêcheur qu'il a été. Et nous ? Le gain est en fonction du travail fourni, non ? Le gain est en fonction du temps passé. Le gain est en fonction de l'énergie consacrée. Tant d'heures à X francs de l'heure, ça fait tel montant. Ça se calcule, ça s'évalue, ça se paye. C'est le salaire au mérite, c'est le salaire au temps consacré. Oui, mais avec Dieu, comment ça se passe, cette question des mérites ? Jésus veut redonner aux disciples une juste vision du maître qu'ils servent. Et je vous suggère qu'on a besoin de retrouver ça constamment. Et peut-être en particulier dans une période de l'année qui est chargée pour l'Église, dans notre métier, en famille. Retrouver une juste vision du maître que l'on sert. Et la vision n'est pas sans surprise pour eux, comme elle n'a pas été sans surprise pour moi non plus. La situation qui est alors décrite dans cette parabole, c'était une situation qui était bien connue des disciples. C'était le marché du travail de l'époque. Sur une place donnée, dans les villages, la main-d'œuvre se présentait. Cette main-d'œuvre attendait les patrons qui voulaient embaucher les hommes dont ils avaient besoin, dans les jardins, dans les champs, pour la cueillette des fruits ou dans la construction. Il y a quelques années, on passait nos vacances estivales dans le sud de l'Italie, dans un petit village appelé Lanuvio. Et le matin, à partir de 6h, 6h30, au centre du village de Lanuvio, des hommes et des femmes s'amassaient, attendant les patrons qui voudraient bien les embaucher, qui dans la vigne, qui dans la cueillette des kiwis qui poussaient en masse dans cette région. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que beaucoup d'ouvriers n'avaient pas de poste de travail fixe. Des ouvriers qui dépendaient à 100% de ce type d'embauche occasionnelle pour vivre, pour mettre quelques légumes ou un morceau de viande dans la marmite. C'était au jour le jour, l'angoisse ou la sérénité. Et on le sait bien, aujourd'hui encore, la précarité de l'emploi existe. Des solutions momentanées, incertaines, instables, des CDD, des emplois temporaires ou sur appel. Je parlais avec Christophe tout à l'heure qui me racontait les conditions de travail dans lesquelles il se trouve actuellement. C'est juste insupportable. Insupportable. Et voilà qu'un patron un peu spécial arrive sur la place du village. Ce patron cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. De bonne heure, nous dit le texte. De bonne heure. Jusque-là, rien à dire, c'est habituel. Un patron qui cherche des ouvriers pour travailler dans la vigne de bonne heure, c'est normal. Je suis sûr que Denis Girardet pourrait nous expliquer ça mieux que je vais le faire. le patron fixe un salaire tout à fait décent pour l'époque. Un denier pour une journée de travail, c'est bien. Et puis, le maître de la vigne se trouve d'autres ouvriers à 9 heures. Et à eux, il promet juste un juste salaire. Il les payera correctement. Puis il revient encore à midi, à 15 heures et même à 17 heures, donc juste avant la fin de la journée de travail. Et à eux, il promet aussi de les payer correctement. Étrange façon de faire, hein ? Cela valait-il encore la peine de chercher des ouvriers alors que la journée de travail touchait à sa fin ? Et puis on peut se poser des questions sur les priorités du maître de la vigne. Est-ce qu'il est en souci pour la vigne ? Est-ce qu'il veut à tout prix rentabiliser tous ses plants et remplir tous ses tonneaux ? Est-ce que c'est un patron Michelin qui annonce la même semaine une augmentation des profits de 35% et 7000 suppressions d'emplois ? Le maître vigneron pense-t-il à produire coûte que coûte ? Est-ce qu'il ne pense qu'à la rentabilité, aux gains, aux bénéfices seulement ? Et vient le soir. Et quand le soir vient, eh bien, il paye ses ouvriers. Et c'est là qu'intervient la surprise, verset 8. Il commence par payer les derniers arrivants, ceux qu'il a embauchés à 17 heures. Et à eux, il leur donne le salaire d'une journée complète. S'il avait fait partie d'un syndicat patronal, il aurait eu de sérieux soucis avec ses confrères. Hein. Il casse le marché, il jette l'argent par les fenêtres. Et du coup, les premiers arrivants se mettent, eux, à rêver, verset 10. Si une heure de travail rapporte un denier, alors 10 heures de travail rapportent 10 deniers. Le jackpot, le gros lot, la journée de leur vie. Et ils le méritent bien parce qu'ils n'ont pas fait de sieste. Mais voilà, les ouvriers de la première heure doivent vite déchanter. Ils doivent rapidement perdre leurs illusions d'un instant. Ce n'est que le salaire convenu qui leur est versé, soit un denier pour une journée de travail. C'est ce qui était prévu. Et là, ils ne sont pas contents. Pas contents, pas contents, pas contents. Versets 11 et 12. C'est pas juste. C'est pas juste. On est en train de se faire avoir. Nous, on a trimé, besogné sous le soleil. C'est vraiment pas juste. On s'est levé tôt. La pause était courte. Il a fait chaud. C'est pas juste. Pourquoi les autres ont-ils autant que nous ou nous, pas plus qu'eux ? Et le maître leur répond, versets 13 à 15. Ne tient-il pas ses promesses ? Ne donne-t-il pas ce qui était convenu, ce qui avait été fixé au départ, sans aucune restriction de leur part ? D'ailleurs, ne peut-il pas faire ce qu'il veut avec son argent ? Qui l'empêchera d'être bon et généreux ? Cette parabole, elle nous révèle un maître vigneron beaucoup plus intéressé par le bien de ses ouvriers que par ses finances. Un maître vigneron beaucoup plus intéressé à distribuer, à donner, qu'à accroître. Avec lui, l'accent n'est pas mis sur le profit, sur le bénéfice, mais sur l'humain. Et chacun de ces hommes a besoin d'autant pour vivre. Ceux qui ont été engagés les premiers, comme ceux qui ont été engagés les derniers, et qui peut-être, à la fin de la journée, ne s'attendait surtout pas à décrocher encore une heure de travail. À 6 heures du matin, comme à 12 heures, 15 heures ou 17 heures, l'objectif du maître de la vigne est le même. Il veut tirer d'affaire des hommes désœuvrés, démunis, pour qu'enfin ils aient le nécessaire pour vivre. En tout cas, ceux qui sont d'accord de venir bosser dans sa vigne, ceux qui répondent à son appel. Ma proposition, c'est que cette parabole présente en réalité le Dieu du salut. C'est vraiment le Dieu de la grâce, qui n'agit pas envers les hommes en fonction de leur mérite, mais pour leur bien. Il les cherche, Il les invite à le suivre. Il les veut avec lui pour faire le bonheur de ceux et celles qui répondent à son invitation et pourvoir enfin à leurs vrais besoins. Le but de cette parabole est de donner aux disciples que nous sommes un nouveau regard sur notre place dans la vigne du Seigneur. Et peut-être un nouveau regard sur le Seigneur lui-même, maître de la vigne, le Dieu de la grâce, imméritée, généreuse. Oui, le maître de la vigne veut tirer d'affaire des hommes et des femmes en difficulté, sans espoir, avec simplement des besoins immenses. Des hommes et des femmes qui courent le risque de la marginalisation, de la désespérance, qui risquent de mal tourner. Proverbe 30, verset 9. Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Et puis le maître de la vigne sait aussi qu'il y a tant de mauvais maîtres qui proposeront d'autres activités aux désœuvrés pour profiter de leur vulnérabilité. Conditions iniques de travail, ou pire, la délinquance, la prostitution, des trafics en tout genre. Que de drames à cause du désœuvrement, à cause de l'ennui, à cause de la désespérance, de la perte du respect de soi. Que de drames à cause de l'injustice. Cette parabole nous rappelle aussi que dans l'espace public, aujourd'hui encore, il y a bien des personnes en rupture, en dérive, des personnes en manque de sens, en manque de relations, des gens qui voudraient s'en sortir, qui voudraient gagner leur vie, ne serait-ce que pour aujourd'hui déjà. Mais plus loin qu'une aide sociale, plus loin qu'un secours matériel ponctuel nécessaire, il y a quelqu'un qui les cherche pour les sauver. Et cela du matin au soir de leur vie, du début à la fin, sans jamais laisser tomber sa quête. C'est le Dieu de la grâce qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le Dieu de la grâce qui aujourd'hui encore veut pardonner, aimer, restaurer celui ou celle qui vient à lui. Permettez-moi de vous dire que si jamais c'était votre cas ce matin, si après être passé entre les mains de maîtres durs, exigeants, incompréhensifs, que ce soit l'argent facile, des dépendances, le mensonge, des pratiques occultes, une religiosité de surface, la pornographie, la violence, si vous avez l'impression que votre vie est sans dérive, sans but, si maintenant vous aspirez à la paix, à la vérité, si vous cherchez quelqu'un qui vous aime, qui vous comprenne, qui vous valorise, alors tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Je reviens à notre parabole et une question qui s'est posée pour moi cette semaine en la méditant. Est-ce que moi, je suis réellement son ouvrier ? Est-ce que nous sommes ses ouvriers dans la vigne ? Est-ce que nous sommes, pour le dire autrement, animés par la grâce? Et je vous propose qu'il y a de quoi s'interroger devant cette question. Dans le texte que nous méditons ce matin, il y a deux types de remarques qui m'interrogent. Celle de Pierre et celle des ouvriers. Celle de Pierre en 19-27. Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous, Seigneur ? Cette remarque-là, elle montre qu'on peut être tout près de Christ et se poser de bien curieuses questions. Que l'on peut encore parfois penser à nos mérites, à nos œuvres bonnes et aux récompenses auxquelles elles donneraient droit. Et puis la remarque des premiers ouvriers qui manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire de la vigne. « Oh, cela sont arrivés les derniers !» Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur donnes autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Voilà des gens qui avaient travaillé pour un maître bon, mais qui visiblement le connaissaient bien mal. Ils étaient incapables d'apprécier sa générosité, sa bonté, sa façon d'utiliser ses richesses pour enrichir les plus pauvres, pour leur donner de quoi vivre, et par grâce seulement. Sans aucun doute, cette parabole-là, c'est une belle image du salut, une magnifique image du Dieu qui sauve et qui restaure. Pour tous ceux qui répondent à l'appel de Jésus, sans distinction, le salaire est le même. Dieu offre un pardon total, un salut parfait, la vie éternelle, un don qui ne se fractionne pas malgré sa grandeur. C'est un tout indivisible. On ne peut pas être à moitié sauvé ou à moitié perdu. La grâce de Dieu sauve parfaitement, définitivement. Et si l'on est sauvé par la foi en Christ, alors il nous faut renoncer à toute idée de mérite, parce que ce sont ses mérites à lui qui nous sauvent. Le salut n'est pas un salaire, une rétribution à la mesure des mérites accumulés, du travail accompli, mais le salut, c'est un cadeau, c'est le don gratuit de Dieu. Pour tous celles et ceux qui ont répondu, même de manière tardive dans leur vie, à l'appel du Seigneur. D'ailleurs, justement, dans notre texte, Jésus met en présence les premiers, comme les disciples, qui ont suivi Jésus dès l'appel reçu, sans perdre de temps, au tout début, des hommes qui ont tout quitté, les premiers. Et puis les derniers, ces ouvriers qui sont entrés dans la vigne au soir de leur vie, sans moyen de faire beaucoup, sinon de beaucoup recevoir. Et Jésus, par deux fois, en présence des uns et des autres, répète les mêmes mots. Beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. La parabole. Et voilà comment les derniers seront les premiers. Et comment les premiers seront les derniers. Pour conclure, je voudrais juste souligner un risque que le Seigneur Jésus met en lumière ici. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, démarrer avec un bon esprit et en arriver, j'espère ne pas en finir, avec un mauvais. Au début, quand on découvre la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance, on réalise l'amour de Dieu pour nous, son pardon pour nos péchés. Grâce à Jésus qui a pris sur lui, nous pouvons être enfin réconciliés avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Recevoir aussi, et déjà dans cette vie-ci, la présence du Seigneur constamment en nous, le Saint-Esprit, ses consolations, ses dons, ses directives, son amitié, une nouvelle famille, une solide bénédiction. Et là, au début, nous ne pouvons que dire « Merci Seigneur !» et nous engager de tout cœur, dans l'Église, dans le monde, à fond, tout le temps. Puis les années passent. Et du « Lui qui nous aime », on commence à penser de plus en plus souvent au « nous qui l'aimons ». On commence à penser aux services rendus, souffrances endurées, privations consenties, à tout ce que nous avons quitté, à tout ce que nous n'avons pas pu faire. Et on commence à s'inquiéter de la récompense et on s'étonne que nos services soient si peu appréciés, que s'ils le sont, eh bien ce ne soit pas toujours plus dit et relevé. Et la pensée de nos mérites vient alors troubler notre vision des choses, notre vision de l'œuvre de Dieu, notre vision des autres. Le bon esprit du début cède la place à l'esprit de critique, comme pour les vignerons, verset 11, de la critique même contre Dieu. Le bon esprit du début vient céder la place à l'esprit de jalousie, comme pour les vignerons, verset 15, qui s'étonnent que Dieu accorde à chacun le même salut, la même grâce. Nous, oui, d'accord, mais lui, non, quand même pas. Et dans ces cas-là, nos murmures sont un affront pour Dieu. Parce que c'est l'esprit du frère du fils prodigue qui n'apprécie pas un père qui fait grâce à son frère repentant, un père qui pardonne et qui restaure. C'est l'esprit de Jonas qui s'insurge devant l'amour de Dieu, qui pardonne à ces païens ninivites repentants. Et c'est ainsi que les premiers deviennent les derniers en esprit. Tragique évolution, hein ? Commencez par la grâce et continuez par l'esprit du serviteur mécontent, critique, le serviteur, la servante qui tient des comptes d'apothicaire, qui fait des comparaisons au sujet de ses mérites, de son investissement, de ses compétences, qui mériterait bien telle ou telle grande récompense, telle ou telle grande reconnaissance. Ce type d'évolution, elle est possible dans la vie du croyant. Elle est facile, elle menace. Je l'ai déjà rencontré l'une ou l'autre fois au carrefour de mes propres pensées. Et je dois m'humilier devant Dieu pour ça. La parabole que nous avons méditée ce matin nous enseigne à garder un esprit de grâce dans notre vie chrétienne. Tout pratiquement. Restez reconnaissant pour tout l'amour et toute la patience que Dieu a pour moi comme pour les autres. Qu'ils soient engagés ou non de la même façon que moi. Que leur investissement ressemble ou non au mien. C'est me réjouir d'être ouvrier dans la vigne du Seigneur. C'est y travailler de bon cœur. C'est y donner de mon temps, de mes forces, avec plaisir, avec détermination. Parce que tout l'amour que je pourrais lui manifester ne sera jamais qu'un retour bien limité de tout l'amour qu'il a manifesté pour moi. À la méditation de ce texte, je crois que Jésus nous dit ce matin, garde bien en vue toujours la grâce qui t'a été faite. Ne l'oublie pas. Tu as choisi la bonne part. Tu t'es pas trompé de crèmerie. Tu t'es pas trompé de vigne. Tu t'es pas trompé d'église. Que les autres apprécient ou non ce que tu fais dans ma vigne, c'est pas important. Laisse ça de côté. Sois fidèle. Tu y es. Tu y travailles. C'est formidable. Tu pourrais être aujourd'hui si loin de moi si je n'étais pas intervenu dans ta vie. Tu serais encore sans Dieu, sans espérance. Alors réjouis-toi de savoir que ton Dieu est bon et qu'il accorde la même grâce, le même salut, le même pardon, la même entrée dans le royaume aux ouvriers de la dernière heure qui ont apparemment fait moins que toi dans la vigne. Et dis-toi bien que toutes les occasions de service, au matin, à midi, comme au soir de ta vie, sont autant d'occasions, autant de bénédictions que Dieu t'accorde. Alors saisis-les, mets-toi à l'œuvre, vas-y, engage-toi, rengage-toi. Et garde-toi bien de l'orgueil, des services rendus et des comparaisons. C'est un poison pour ton âme. Tu y perdrais la joie de ton salut, tu y perdrais l'esprit de la grâce, tu aurais dans ton cœur des sentiments contraires à ceux du maître dont tu te réclames. Sois reconnaissant. Ton Dieu est merveilleux, à la manière de ce maître décrit dans la parabole. Merveilleux pour les premiers, merveilleux pour les derniers qui reçoivent comme toi la grâce de Dieu et qui en vivent. Garde en toi la juste motivation qu'inspire la grâce, parce que toi, mon ami, tu es aimé de Dieu. Mon bonheur à moi, c'est toi, dit David. C'est cet esprit de grâce qu'il faut garder, retrouver, ranimer constamment. C'était la prière de David autrefois. « Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. Alors c'est ce renouvellement que je nous souhaite à toutes, à tous. Si nous sommes déjà engagés dans la foi, et pour vous qui hésiteriez encore face à cet engagement à suivre Jésus, je voudrais vous dire simplement qu'à Jésus, on ne peut être ni trop tôt, ni trop longtemps. Amen.
Je pense qu'on peut chanter pour méditer ce que Philippe vient de nous apporter. Merci beaucoup Philippe pour ton message. Quand on a préparé ce culte ensemble, j'ai beaucoup à l'esprit ce passage de Romains 9 qui demande au verset 14 « Mais alors que dire, Dieu serait-il injuste ? Loin de là. » Et au verset 21 « Paul le dit, au verset 20-21, « Mais qui es-tu donc, toi, un homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et je pense que c'est bon, des fois, de se rappeler qu'on est l'argile, on est le pot, et Dieu, il est le potier. Il veut faire ce qu'il veut de nous, et pourtant, il nous aime infiniment. Et ce matin, je voulais qu'on chante, qu'on se rappelle de cette grâce infinie de notre Dieu qui nous a tous sauvés en donnant son Fils unique. Donc je vous invite à vous lever et à chanter ce chant.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Tu n'es rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre
En chantant Rédempteur du monde, se rappeler de ce magnifique sacrifice que Dieu a fait en donnant son Fils à la croix.
Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et t'envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta glorieux ressuscité. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus, envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Après ce dernier chant, on va passer à la Sainte Cène et je vous invite à chanter attaché à la croix avec nous, se rappeler quel Sauveur merveilleux nous avons, qui s'est sacrifié pour nous.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifie pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché
de prendre la Sainte Cène, j'avais envie de partager une conversation que j'ai eue il y a 10 jours à mon travail. Je travaille avec des enfants et puis j'étais en train de dire au revoir à un enfant avec lequel je travaille chaque semaine. Il était accroupi en train de remettre ses chaussures et moi je me déplace dans le bureau, je ne sais plus pour faire quoi. Et du coup il était comme ça et du coup il me suit. Et il fait comme ça, continuant à mettre ses chaussures et à me parler. Et puis, soudain, il s'exclame et il me dit « Oh, mais t'as ça, toi, dans ton bureau ?» en voyant un truc qui était un peu en bas. Je ne l'avais jamais vu.
Puis je lui dis, ben ouais, il y a cette chose-là dans mon bureau. Puis il me répond, mais en fait, je ne l'avais jamais vue, parce qu'avant, j'étais toujours comme ça quand je mettais mes chaussures. Puis là, j'ai fait comme ça, puis du coup, je l'ai vue, là. Puis je lui dis, ben, tu vois, des fois, quand on change notre regard, et il termine ma phrase, et il me dit, on découvre mieux. Quand on change notre regard, on découvre mieux. Je lui dis, attends, ça, il faut que je note, parce qu'il faut que je le retienne, et il faut que je le partage. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas un peu ça aussi, la grâce ? Accepter le regard de Dieu sur nous, regard différent du nôtre, et en retour, par la foi, apprendre à voir autrement, pas simplement pour voir autre chose, pour découvrir mieux. Et en pensant à la Sainte Seine, je me disais, mais finalement, comment considérer le plan de salut pour Dieu qui nous est présenté, le plan de salut de Dieu qui nous est présenté dans la Bible, sacrifier son propre fils pour nous, mais humainement, c'est de la folie. Mais Dieu, dans sa vision, l'a voulu ainsi, pour que nous découvrions quelque chose de mieux. Quelle grâce! Merci Seigneur. C'est donc dans cet esprit de reconnaissance que nous allons nous souvenir du sacrifice du Christ, mort pour que nous vivions. J'aimerais prier. Seigneur, tu sais que parfois nous restons figés dans nos croyances ou nos systèmes de valeurs. Ta parole nous bouscule. Merci parce que dans ta pensée, dans ta perspective, nous avons chacun notre place. En donnant ton Fils en sacrifice, c'est à chacun de nous que tu permets d'accéder à la vie. Merci pour ce cadeau. Amen.
Je lis l'institution dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, en version français courant. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Pour la distribution, nous avons la joie d'avoir nos musiciens qui vont y prendre part. Pour les plateaux avec les petits gobelets, comme d'habitude, les gobelets au centre de couleur violette contiennent du jus de raisin, donc sans alcool, le solde étant du vin. Philippe et moi, nous sommes à disposition si quelqu'un désire communier à la coupe. Et pendant ce moment de distribution, sentez-vous libre si vous voulez exprimer une pensée ou simplement prier. Voilà, nous allons passer pour recueillir vos offrandes en musique.
Je vous invite à vous lever pour chanter la. Remercier Dieu pour sa fidélité.
Dieu, ta fidélité va jusqu'au nuit, plus vaste ton amour que l'horizon, ta tendre main est toujours étendue, il est paisible ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se
Je vais prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour ce qui a pu être récolté ce matin dans nos rangs. Merci à chacun d'y avoir contribué. J'aimerais prier et te remettre le comptable qui compte, les réviseurs qui révisent et le conseil qui administre ce qui a été récolté, pour en faire le meilleur usage possible à ta gloire. Amen. Pour les annonces, j'appelle Johan.
Merci, bonjour à chacun. Alors pour les annonces, ça commence tout de suite avec aujourd'hui la compagnie Lamarelle, un spectacle qui est au CEPOM à 17h. Généralement c'est une compagnie qui on voit quand même pas mal, c'est pas mal. Franchement on a été voir avec les potes, enfin c'était les ados à l'époque, on avait été voir Zachée. Et c'était vraiment très bien. Ensuite, cette semaine, jeudi soir, une conférence avec Dave Bouclès de l'association Arocha, un dieu zéro déchet. Et c'est à 20h ici à l'église. Vendredi, le colloque à 20h15 ici. Ensuite, samedi 23 novembre, Gospel Spirit qui est au Temple du Lignon à 19h30 et puis aussi de vous rappeler que le 23 novembre, c'est la rencontre générale de la FRAE, dont on est membre, et c'est pas très loin de chez nous, puisque c'est à Nyon. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a quelques membres du conseil qui y vont, mais tout le monde, ils sont les bienvenus à cette rencontre. Et c'est intéressant de voir notre fédération, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment notre argent que l'on verse aussi à cette fédération est utilisé. Ensuite, dimanche prochain, culte intergénérationnel. Dimanche 1er décembre, un culte participatif. C'est Claude qui l'anime. Donc n'hésitez pas à venir pour partager une parole, une réflexion, un passage ou une promesse. Ensuite, mardi 3 décembre, le Noël du fil d'argent. Est-ce qu'il y a encore besoin d'aide? J'ai vu passer un coup de pouce où il y avait encore besoin d'aide pour les services du repas. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller vers Marianne Fond ou André Dufour si vous voulez donner un coup de main pour le service de cette fête de l'Avent. Dimanche 15 décembre à 17h, ici à l'église, un concert de psalmodie, donc une chorale qui viendra chanter et offrir gratuitement son concert. 65 choristes exactement. Donc autant dire que ça fera du monde sur la scène. Ensuite, pour le groupe de jeunes, je pense que je vais laisser la parole à Lydie.
Merci. Alors, comme chaque année, on vous demande de nous soutenir pour notre camp de ski. Il me semble que les dates, c'est du 28 décembre au 4 janvier. Et pour cela, on vous demande de nous donner gentiment des denrées, quelle qu'elle soit. Donc, il y a le tableau d'affichage qui est à l'extérieur dans le hall ici. Et il y a plein de petits papiers blancs où il faut prendre un petit papier blanc, il faut l'arracher, et puis le garder avec vous, et puis ramener ce que vous avez pris sur le petit papier blanc. Faites attention, c'est peut-être un peu délicat de ne pas arracher toute la feuille, s'il vous plaît. Donc, une fois que vous avez acheté les denrées, il faut juste les ramener dans la cuisine du groupe de jeunes, les poser dans la cuisine, et puis il ne faut pas amener plus que ce qui n'est pas écrit sur les petits papiers. Donc si ce n'est pas écrit de ramener 10 kilos de sel, ramenez pas 10 kilos de sel, s'il vous plaît. Le délai pour ces denrées, c'est jusqu'au 22 décembre, comme ça on sait ce qui nous manque et on peut encore aller acheter pour le camp de ski. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Et encore Prisca, une petite annonce.
Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être sauvé par grâce? Est-ce que vous pensez qu'on doit transmettre cette nouvelle autour de nous? Alors moi, j'ai des fois de la peine à savoir comment faire. Donc j'ai commandé 100 petits... C'est des bandes dessinées, 100 paroles. Donc il n'y a pas de choses à lire. Donc ça peut être pour tous ceux qui ne parlent pas français aussi. Et puis c'est l'Évangile. C'est Alain Auderset qui a fait cette petite bande dessinée, 100 paroles. Et puis, pour la petite histoire, Alain Auderset, il s'est converti en trouvant une bande dessinée au vieux papier. Donc, n'hésitez pas à la mettre où vous pensez, dans les bus, les écoles, autour de vous, dans les boîtes aux lettres, à vos voisins, à vos collègues. Et à la fin, il y a les références bibliques quand même, en français, en anglais, en allemand, en italien et en portugais. Donc, servez-vous, c'est gratuit à la sortie.
Merci. Et puis, encore cette annonce... Nous sommes toujours à la recherche pour renforcer l'équipe des projectionnistes. Donc n'hésitez pas à contacter Thierry, Christophe ou Rebecca. Donc il y a déjà Christophe qui est là. C'est un petit service qui a une grande valeur puisque, comme on le voit, ça permet d'afficher les chants, et ça permet d'avoir une vie d'église et un culte qui se déroule bien.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Dieu qui renverse nos priorités, celui qui vient parfois bouleverser nos crispations, mais aussi celui qui nous aime infiniment, nous surprenne par sa grâce dans les jours à venir.
Laissons-nous être renversés dans nos convictions pour apprendre chaque jour à le découvrir mieux. Que le Dieu de la grâce nous accompagne cette semaine. Très bon dimanche.